Mesdames et messieurs, bonsoir. Le journaliste Louis Bapouamwamba, âgé de 64 ans, a été tué par trois hommes armés qui s'étaient introduits dans sa résidence dans la nuit du 7 au 8 juillet dernier. Ce crime a été unanimement condamné par les professionnels des médias congolais et étrangers qui exigent du reste la sécurisation des journalistes à moins d'un mois des élections. En effet, l'ampleur des attaques contre le journaliste a atteint des proportions alarmantes en cette période préélectorale. En l'espace d'un mois, deux autres journalistes ont été victimes d'attaques à main armée à Kinshasa, le journaliste congolais Jean-Luc Kinyongo de l'hebdomadaire Vision et le journaliste allemand Roland Brockmann, correspondant du quotidien Die Welt, qui a été blessé d'une balle à la hanche. Ajouté à cela, le double assassinat il y a 8 mois du journaliste Franck Ndiké et de son épouse. Alors pour protester contre ces attaques et les récents assassinats du journaliste Bapouamwamba, l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, a décrété ce mardi une journée sans information à travers la RDC. Mais déjà, certains de nos auditeurs, tels Alain Kasonga, résident en Bujimaï, estiment qu'il faut mettre l'embargo sur toutes les activités ayant trait avec la campagne électorale pendant 13 jours. Nelson Tamba à Mwanda, au Bas-Congo, dit ceci: nous journalistes, nous punissons et nous punissons les innocents auditeurs en faveur des gouvernants qui font la sourde oreille. Abel Ikoko en Équateur estime que le gouvernement congolais est l'auteur de ces assassinats et expulsions des journalistes, car tous ces drames et scénarios se déroulent dans le territoire congolais. Alors comment cette journée sans information a été vécue par les professionnels de la presse et la population? Comment garantir la sécurité des journalistes à la veille des élections? Réponse dans quelques instants avec nos invités. Henri Mbasakani, ministre de l'Information. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Tadéen Pindi Passi, président de l'Union de la presse congolaise. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Tivis Tuvoidi, qui est secrétaire général de Journalistes en danger, une organisation de défense des droits des journalistes. Bonsoir, monsieur Tivis Tuvoidi.
Bonsoir. Bonsoir, madame.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Encore une fois, bonsoir à vous tous qui nous suivez en ce moment. Le journaliste Bapouamwamba, assassiné le 8 juillet dernier, repose désormais au cimetière des Lagombé. Déjà hier, à l'occasion de la sortie de son corps à la morgue de l'hôpital Mamaemo, les journalistes ont déposé à Kinshasa un mémorandum au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, M. William Lafiswing. Mémorandum qui demandait plus de protection pour les journalistes congolais. Faut-il le rappeler, c'est le deuxième journaliste congolais à être assassiné en l'espace de 8 mois. Notre confrère René Capita a couvert pour Radio Okapi les cérémonies de l'inhumation du feu Bapouamwamba et la marche silencieuse d'hier des journalistes. Écoutons son récit dans cet entretien avec notre confrère Claude Kenza.
Bonsoir René Capitain.
Bonsoir Claude Kenza.
Aujourd'hui a eu lieu l'inhumation de notre confrère Bapouamwamba. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment s'est déroulée cette cérémonie?
En fait, la cérémonie d'hommage s'est déroulée cet avant-midi à la place IMK, en présence de plusieurs journalistes de la presse nationale et étrangère, des représentants des corporations de la presse, mais aussi du ministre de l'Information et du vice-président en charge du social. Il faut cependant noter qu'au moment d'aller à l'enterrement, un groupe de manifestants des partis politiques a cherché à récupérer la situation, notamment en bloquant le cortège funèbre. C'est alors que la police va intervenir avec des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants, escorter à vive allure le corbillard vers le cimetière de la Gombe, laissant ainsi dans la débandade de nombreuses personnalités qui sont venues partager la douleur de la famille des illustres disparus.
Vous avez couvert hier pour le compte de Radio Capi la marche silencieuse qu'ont organisée les journalistes hier à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur cette marche?
En fait, la marche est partie de la gare centrale à partir de 12h30. Environ 300 journalistes sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère et dire non aux meurtres, mais aussi aux agressions contre les professionnels des médias, brandissant des banderoles et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Bapouamwamba, un mort de trop, la liberté de la presse est sacrée, tuer un journaliste, c'est priver la démocratie d'oxygène ». Ils étaient accompagnés des responsables des différentes corporations de la presse. Ils se sont dirigés vers le siège de la MONUC pour déposer un mémorandum auprès du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. avant de se diriger vers la morgue de l'hôpital général de Kinshasa, et enfin à la place IMCA, où l'on devait rendre les derniers hommages à l'illustre disparu.
Merci beaucoup René Capita et bonne soirée.
Je vous remercie Claude.
Alors tout de suite, commençons avec vous, Tivis Tivodi. Vous êtes secrétaire général des journalistes en danger, une organisation des défenses et des droits des journalistes. On parle de l'ampleur des attaques contre les journalistes en cette période préélectorale. Brièvement, pouvez-vous nous faire un petit état de la situation, brièvement?
Oui, écoutez madame, quand on parle de la sécurité, de l'insécurité des journalistes, il ne s'agit pas là d'une figure de style. Je vais vous donner simplement des chiffres peut-être qui vont vous édifier. Parce qu'en termes d'atteinte et d'attaque contre les journalistes ou contre la liberté de la presse, et on met dans une typologie qui comprend aussi bien des journalistes assassinés, des journalistes qui sont emprisonnés, donc qui ont été privés de leur liberté, des journalistes qui sont agressés ou torturés. Pour cette année, à partir du mois de décembre jusqu'au moment où je vous parle, au mois de juillet, nous avons déjà eu enregistré au moins 78 cas de journalistes qui ont été soit emprisonnés, soit privés de leur liberté pour de plus ou moins longues périodes. Nous avons eu 18 cas de menaces ou de harcèlement contre des journalistes. Nous avons compté au moins 14 cas d'agression contre des journalistes, sans parler de la censure, de l'entrave à la circulation de l'information, au moins 11 cas. Ce qui fait que, si on fait les calculs, l'année dernière, pour toute une année, nous avions 108 cas pour toute l'année, et aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de l'année, nous avons déjà enregistré 78 cas. Faites la calcul, vous voyez que ça veut dire nous avons au moins chaque mois 11 cas d'attaque ou d'agression contre des journalistes. Faites les calculs encore, vous verrez que chaque semaine, nous enregistrons au moins 3 cas d'attaque ou d'agression contre des journalistes. Je pense que c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et donc qui indiquent bien l'ampleur. Et nous sommes d'autant plus inquiets que maintenant que vous sentez tous qu'il y a une tension maintenant à l'approche des élections, plus la tension va monter et plus cela risque d'avoir des répercussions sur les journalistes.
Oui, Tivis Tivodi, si on sait que les circonstances du double meurtre, par exemple, du journaliste Franck Guiquet et son épouse sont restées jusqu'ici non élucidées, pensez-vous que les circonstances de l'assassinat de notre confrère Luis Bapoua seront connues un jour?
Eh bien, écoutez, si des centaines, plusieurs centaines de journalistes, je ne crois pas que nous étions 300 seulement, nous étions un peu plus nombreux que ça. Si nous sommes descendus hier dans la rue, c'est pour envoyer justement un signal clair aux autorités, à la communauté internationale, que nous ne sommes pas prêts à abdiquer. Nous ne sommes pas prêts à nous résigner par rapport à cette situation et que nous avons envie de résister contre ceux qui pensent qu'ils peuvent pouvoir faire taire la presse. Parce que, madame, la liberté de la presse aujourd'hui, ce n'est pas seulement une affaire des journalistes. Plus nous avons besoin d'organiser des élections libres et transparentes, et on sait que la liberté de la presse est un des éléments essentiels pour que les élections soient transparentes, et je crois que c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde se mobilise pour que justement les journalistes puissent faire
correctement. Oui, parlons toujours de notre regretté confrère Bapoua Mwamba. Un auditeur, Didier à Kisangani, dit ceci. On dit que Bapoua Mwamba a été assassiné pour avoir écrit « Qui bloque la transition ?» Est-ce qu'il suffit, de répondre à cette question pour connaître ainsi l'assassin? Pouvez-vous également brièvement éclairer notre auditeur à ce sujet?
Non, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il a écrit. Le dernier article date du 6 juillet, mais M. Bapoua Mwamba est dans la profession depuis des années. Je me suis un peu amusé à relire un peu tous ses articles sur Internet. Il a écrit énormément, il a participé à énormément de conférences, il a fait énormément d'exposés sur la situation politique de ce pays, et il semble même qu'il était en train de faire des recherches pour publier des bouquins. Donc on ne peut pas dire, si jamais il avait été assassiné à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a écrit, on ne peut pas dire que c'est à cause du dernier article.
Oui, monsieur le ministre, il y a un auditeur, Henri Amator, étudiant à Kisangani, qui pose sa question. Il veut savoir qu'est dit le gouvernement au sujet de la perte des vies de nos journalistes qui cherchent à dire la vérité.
Non, il y a des a priori, il n'y a que dans une société organisée, l'instance judiciaire qui nous permet de connaître la vérité. Hein. Tout au moins, on suppose que telle est sa charge. Les autres insinuations ne relèvent que d'une certaine émotion compréhensible du reste pendant une période de grande crise dans la corporation avec en 8 mois les chiffres tels que vient de le donner M. Tivodi. Effectivement, on peut se donner à n'importe quelle considération. Donc les gens qui disent ça partent de l'hypothèse selon laquelle les journalistes sont assassinés pour les faire taire. Une telle hypothèse ne peut être justifiée que si la justice, qui a commencé pour le cas de Ndiké, vous avez oublié de le dire, si elle nous permet d'aborder sereinement le processus de l'éclosion de cette vérité. Donc moi, je ne peux pas me lancer dans de suppositions, genre on voudrait les faire taire. Les journalistes vivent dans un contexte, dans une société, donc ils peuvent avoir des problèmes autres que professionnels, ils peuvent être crapuleux, mais tout cela reste des hypothèses à l'état actuel des connaissances. Il faut donc attendre que la justice nous dise exactement qui a fait quoi sur ces deux cas et qui est responsable de quoi.
Oui, effectivement, monsieur le ministre, lors d'un entretien avec Radio Okapi au lendemain de l'assassinat de notre regretté confrère Louis Bapoua, vous avez promis non seulement de saisir officiellement le ministre de l'Intérieur pour la célérité de l'enquête, mais aussi de saisir la justice pour que, par exemple, le procès Ngike puisse commencer et aussi que les enquêtes aillent très vite concernant l'assassinat des Bapoua Mwamba. Pour cela, vous avez également vous-même indiqué que vous saisirez personnellement le chef de l'État afin que très rapidement le magistrat et autres soient instruits à cet effet. Cela a-t-il été fait?
Exactement, madame. Vous constaterez que l'enquête, d'habitude, c'est que l'assassinat est très spectaculaire, mais l'enquête n'a pas pour vocation d'être aussi spectaculaire, malheureusement. Mais le chef de l'État, effectivement, je l'ai saisi autour de cette question, raison pour laquelle, à la demande de l'Union nationale de la presse du Congo, le président a répondu en tenant une partie de frais des obsèques. Mais sur le plan administratif, un juge d'instruction a déjà été nommé, les enquêtes ont commencé, et je ne pourrais pas vous dire à quel niveau elle se trouve. L'on regrette seulement pour le candidat qu'on ait pris 6 mois d'instruction. Ça a été très long au point que l'émotion est retombée et les gens ont peut-être oublié la psychose que ce double meurtre avait provoquée dans la population. Et donc, pour Bapoua, nous souhaitons que les choses aillent beaucoup plus vite. Et ça, c'est du ressort de la justice. On doit se féliciter par moment lorsque les instances compétentes se saisissent de tels dossiers.
Oui, monsieur le ministre, nous sommes également dans ces studios avec Kabea Pindimpasi, qui est président de l'Union de la presse congolaise. Un auditeur, Jean Bouroumé du Sud, qui vous pose sa question. Il veut savoir pourquoi les journalistes artisans de paix succombent chaque jour dans la capitale quand la sécurité des hommes d'affaires et des politiciens est bien assurée. Un autre auditeur, Simon Tobotela de Kisangani, veut savoir pour quelles raisons et pour quel intérêt les hommes armés assassinent-ils les journalistes.
Mais je ne sais pas si cette question m'est destinée. On devrait plutôt la poser à ceux qui assassinent, parce que eux au moins ils savent pourquoi ils assassinent. Mais à notre niveau, nous avons de réelles craintes quand on voit effectivement cette tendance effectivement qui devient une sorte de spirale de violence dirigée essentiellement contre les professionnels de l'information. La tendance, elle est essentielle pour comprendre qu'effectivement il y a une volonté de nuire à un corps de métier. Bon, on connaît les traditionnelles fonctions de l'information, mais je crois que dans le contexte général de la crise congolaise, on peut comprendre effectivement que par-ci, par-là, il y a une certaine volonté d'étouffer la vérité. Naturellement,
Alors,
la vérité dérange et on peut, d'une manière ou d'une autre, chercher à le faire taire. Cela ne signifie pas qu'il y ait au départ une action concertée, délibérée, mais comme M. le ministre dit, oui, parfois c'est l'émotion, mais c'est vrai aussi que ceux qui agissent, parfois agissent sur la base de l'émotion. Ils sont touchés par la publication de tel article ou la publication de telle interview, etc. Ça les touche parce qu'ils s'imaginent qu'on est en train de sombrir leur avenir. Des gens disent oui, pour nous c'est une question de vie ou de mort. Et là ils parlent de leur beefsteak généralement quand les gens raisonnent comme ça. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que, par exemple, en allant tuer, ils ne savaient pas en allant tuer Bapoua Mwamba que le monde entier allait se soulever contre cela. Donc, parfois, c'est des gens, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des milieux d'affaires ou que ce soit des criminels de façon tout à fait isolée, donc auteurs de crimes crapuleux, généralement, ils sous-estiment la dimension d'un journaliste parce qu'ils ne savent pas effectivement la portée de l'information.
Alors, un auditeur pointe directement du doigt les politiciens d'être auteurs des crimes contre les journalistes. Êtes-vous de cet avis?
S'il vous plaît, madame.
Je disais, il y a un auditeur qui pointe directement du doigt les politiciens d'être auteurs des crimes contre les journalistes. Êtes-vous de cet avis?
Bon, le journaliste, il est au service de la vérité. Dans ce genre de cas, Il n'y a que la justice, normalement, pour pouvoir dire oui, il y a eu ceci, il y a eu cela, etc. Mais je dis que à ce stade ici, que ce soit pour le cas de Franck Ndiké, que ce soit pour le cas de Mwamba, aucune hypothèse ne peut être exclue. Il est bien possible que des hommes politiques, effectivement, aient commandité un tel crime. Il est tout à fait possible. Mais il est également possible que, effectivement, même dans le cas des politiques, les Congolais, on les connaît sur le plan moral. Ils sont, en gros, une moralité peu recommandable, un civisme très, très critiquable. On pourrait même se faire des pieds, c'est-à-dire que Xavier va tuer le journaliste Jean parce que on sait que bon, si le journaliste Jean se meurt, il doit avoir, disons, il a été tué sur ordre d'Antoine. Ça, c'est des choses qui sont possibles sur la scène politique congolaise. Je dis que les morts se sont très, très pourries.
Alors, Monsieur Kabéa Mpindipassi, c'est donc au regard de toute cette situation que l'UMPC a décrété ce mardi une journée sans information. Alors, un auditeur, Omar Kavota, il est président de la société civile en territoire de Béni, recommande à ces sujets aux journalistes de s'unir et de compatir ensemble. Cependant, il aimerait savoir si le mot d'ordre que votre organe a lancé a été suivi sur l'ensemble de la République. Et avant que vous ne fassiez vous-même un petit bilan de cette journée, prenons deux exemples et rendons-nous dans deux provinces de la RDC pour voir si cette journée a été observée par le professionnel des médias. On peut aller au centre de la République et plus particulièrement au Kasaï occidental où nos confrères signalent qu'à Kananga, la journée a été respectée. À Tchikapa, par contre, certaines chaînes ont passé les informations comme d'habitude. Pour les responsables de ces chaînes, la faute revient à l'UMPC national qui n'a pas fait circuler l'information à temps. Suivons donc ces reportages d'André Kambala.
Ce mardi, la population de Kananga a été privée de l'information par les chaînes de radio locales. Ces médias de la métropole du Kasaï occidental ont suivi les mots d'ordre lancés par l'Union nationale de la presse congolaise. Les radios locales ne se sont contentées que de la musique et d'autres programmes. À Tchikapa, les chaînes n'ont pas émis sur la même longueur d'onde et cela suite au manque de communication entre l'UNPC national et les chaînes locales. Pour un collègue de la radio Kilimandjaro, le programme ont été respectés comme d'habitude. Par contre, André Romain Kambala Bilolo, vice-président de l'antenne provinciale de l'UNPC qui réside de manière permanente à Tchikapa, nous a précisé que sa chaîne Kasaï Horizon Radio Télé a respecté le mot d'ordre de l'UNPC. Cependant, il regrette avoir tenu l'information des autres chaînes de Kin qui sont suivies à Tchikapa. À Mweta, l'unique chaîne de radio locale en phase expérimentale ne dispose pas de tranches d'information jusqu'ici et n'a pas été concernée par la décision de l'UNPC.
Alors, au sud-est, à Lubumbashi, s'il est vrai que les organes de presse audiovisuelle ont suivi à la lettre la journée sans information décrétée par l'Union de la presse du Congo, les journalistes, eux, ont du mal à suivre cette consigne. Selon eux, par manque de prise en charge de leurs organes de presse, ils sont obligés de gagner leur vie au quotidien, bien qu'ils soient conscients que c'est la déontologie du métier qui prend un sérieux coup. Ils affirment courir chaque jour derrière un 100 ou 200 francs. Alors, Paul Kaboba pour le reportage.
Comme à l'accoutumée, les journalistes sont arrivés très tôt au centre de presse de Lubumbashi. C'est là qu'ils se renseignent sur les possibilités de faire des reportages dans la ville ou même dans la province. À la question de savoir pourquoi, les journalistes cherchent quand même à couvrir des événements alors que la journée est décrétée sans information, les journalistes rétorquent qu'ils ne sont pas rémunérés par leur organe de presse. Pour eux, couvrir un événement, c'est avoir l'assurance d'avoir son pain quotidien. Cette réalité à elle seule est capable de faire échouer le mot d'ordre de l'UNPC.
Les gens ne sont pas pris en charge par leurs organes de presse. Ça peut faire que la journée échoue, parce que les gens vont se prendre en charge. Lorsqu'il y a manque de prise en charge par les organes de presse, et se prendre en charge, c'est violer et l'éthique à la déontologie, et on ne va pas non plus respecter la journée telle que décrétée par l'UNPC aujourd'hui. On doit courir derrière les gens pour obtenir 100 francs, 200 francs de transport.
Les vendeurs de journaux, eux, ont étalé leurs marchandises comme d'habitude.
Alors, en Équateur, la journée sans information n'a pas été observée par les médias locaux. Voyons cela avec Dominique Wolomi Mongampangé.
En Bandaka, Radio Ikanga produit normalement ses émissions avec les informations locales, nationales et internationales. Radio Liberté Mbandaka n'a pas observé la journée sans information. Même chose à Gemena où Radio Liberté Gemena a émis les matins, la mi-journée et le soir avec des journaux complets. Tout comme à Gbadolité où Radio Liberté Locale qui a écopé de la haute autorité des médias une suspension de 7 jours a produit normalement ses journaux. Cependant, la RTNC Mbandaka n'a pas émis ce mardi ni les matins matin ni le soir par manque de produits pétroliers pour son couple électrogène. Quant à Radio Mwinda de l'Église catholique, elle s'est tue depuis quelques jours suite à une panne technique. Rien à signaler côté presse écrite de deux gazettes de Mbandaka et Kangangenge et Mambenga paraissent de façon sporadique. Ils n'ont rien publié ce mardi, mais là, c'est une simple coïncidence.
Alors, Monsieur Kabea Mpindi Passi, pouvez-vous maintenant brièvement nous donner le bilan de cette journée, brièvement?
Oui, je ne sais pas si je dois vous donner ce bilan ou quand même essayer de réagir aux propos de confrères.
Quand vous voulez, mais brièvement.
Très brièvement, je dis que si les journalistes disent qu'ils doivent aller chercher leur pain quotidien et ne peuvent pas respecter le mot d'ordre de l'UNPC, je dis que ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des gens sans doute qui pratiquent le journalisme et c'est tout à fait différent. Hein? Je crois que vraiment ça n'appelle pas de commentaires supplémentaires. Ils pratiquent le journalisme, mais ce ne sont pas des journalistes qui m'excusent. Bon, maintenant, ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas eu un mécanisme pour pouvoir faire une communication complète sur cette journée que nous avons décrétée. D'abord parce que vous savez que c'est un événement politique extrêmement important sur le plan national et même sur le plan international. C'est la première fois depuis que le Congo démocratique existe que les obsèques d'un journaliste, d'un pauvre journaliste, sont retransmises en direct à la télévision et à travers le monde. C'est un événement historique. Et nous, au niveau des états-majors nationaux, des associations professionnelles, il nous fallait vraiment prendre beaucoup de temps, beaucoup de précautions, prendre des contacts avec les officiels pour éviter de faire l'anarchie. Mais également, vous avez vu qu'il y avait des problèmes sécuritaires extrêmement importants et qu'il fallait prendre en charge toutes ces marches parallèles qui se chevauchaient, etc.
Oui, mais
je voudrais dire que, en gros, ce mot d'ordre a été très bien respecté, hormis les gens qui n'ont pas eu l'information.
Mais pensez-vous, en fait, Monsieur Kabea Mpindi Passi, qu'à travers cette mesure, vous avez touché le cœur des auteurs ou des commanditaires de ces crimes?
Il faudrait que peut-être eux-mêmes puissent les dire. Le plus important pour nous, c'est la responsabilité de ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce pays. Je crois que nous n'avons pas de meilleurs moyens de pression, aussi bien sur eux que sur d'autres organismes partenaires, qui peuvent les amener à comprendre que sans presse, il est vraiment inutile et tout à fait donc illusoire de penser qu'on est en train de construire la démocratie. On est en train de se tromper éperdument.
Oui, monsieur le ministre, à quoi cette colère ou ces ras-le-bol des journalistes exprimés par une journée sans information vous a-t-elle interpellé en tant qu'autorité?
Bon, là, ce symbole des gens qui expriment leur désarroi, leur peine quand un membre de la corporation perd sa vie de façon aussi brutale. Au-delà de ça, c'est que c'est une interpellation de l'autorité par rapport à la sécurité des citoyens, dont les journalistes. Et donc, je voudrais dire un mot à propos de ce bilan que vous faites d'observation de cette journée ou pas. Je crois que l'essentiel, c'est le symbole qu'à un moment donné, on marque un temps d'arrêt pour dire aux criminels qui s'en prennent à des paisibles des citoyens, aux journalistes, que la société en elle-même, elle réprouve de tels comportements et que toute la société communique aujourd'hui à ces malheurs et que même s'il n'y a pas une punition immédiate des instances judiciaires, mais la société elle-même marginalise tous ceux qui opèrent dans ce genre d'action malveillante.
Oui.
Oui,
monsieur le ministre, en fait, parlant de cela, je voulais vous inviter ensemble avec nos invités ici dans les studios à voir ce que pensent certains habitants de Kinshasa habitués à lire des journaux et à suivre les informations sur les divers médias de Kinshasa. Pour certains d'entre eux rencontrés dans les rues de Kinshasa, cette journée sans information est comparable à une journée sans vie. Alors, écoutons-les au micro de René Capita.
Une journée morte. Comme il n'y a pas d'information, on ne peut pas être prudent de ce qui se passe dans notre pays. Il faut qu'il y ait l'information pour connaître l'évolution de la journée. Pour moi, je voulais même que les journalistes fassent ça même pendant 4-5 jours. Comme ça, même le monde entier va suivre qu'il y a eu ça. En tout cas, je suis pour les journalistes.
Une journée sans information, c'est une sorte d'interpellation. D'interpellation au pouvoir politique et même à ceux qui envoient, c'est là pour tuer les journalistes.
C'est une journée morte parce que la vie, c'est les informations. Mais les journalistes sont ceux qui nous donnent des informations. S'ils décrètent une journée morte, c'est que le pays est foutu. donc les pays, les dirigeants, tout ça, ainsi de suite.
L'homme, avec l'évolution de maintenant, nous devons être informés à chaque fois qu'il y a un événement. Mais que si on n'est pas informé, bon, c'est comme disait un philosophe français, nous vivons dans un monde où il n'y a ni loi ni information.
Alors, Monsieur Tivis Tchouvoadi, vous qui êtes secrétaire général des journalistes en danger, est-ce que c'est là le résultat escompté?
Ben, écoutez, les actions qui ont été organisées, ce sont des actions psychologiques, c'est en termes de symboles, comme a dit le ministre. Vous savez, il y a beaucoup de journalistes qui ne connaissaient pas Bapua Mwamba, mais qui sont venus par solidarité. Vous savez que la solidarité, c'est un des principes essentiels de ce métier. Et nous sommes très contents que, d'une manière générale, l'unanimité s'est faite autour de ces activités pour dire on en a quand même assez et que ça suffit et qu'on n'a pas envie de continuer à raconter des morts. Mais j'ai dit, c'est très important et ce n'est pas seulement l'affaire des journalistes. Nous avons l'habitude de dire que la liberté, la presse, c'est la mère de toutes les autres libertés. Il n'y a aucune autre liberté qui peut exister dans la société s'il n'y a pas la liberté d'informer ou d'être informé.
Alors, la journée sans information n'y fait pas l'unanimité pour M. François Elika, enseignant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication effacique et analyste politique. En agissant ainsi, les professionnels des médias privent les Congolais d'un droit qui leur est reconnu par la Constitution, mais il est tout aussi conscient du rôle important de la presse pendant cette période électorale. Monsieur François Elika et ton micro de Claude Kianza, suivant sa réaction.
Bonsoir, Monsieur Elika.
Bonsoir.
Pourquoi, d'après vous, il est important de garantir la sécurité des journalistes pendant la période électorale?
Il est important de garantir la sécurité des journalistes pendant la période électorale, d'autant plus que l'information pendant la période électorale, c'est l'enjeu le plus important. Les citoyens ont besoin de l'information, les candidats ont besoin de l'information. L'information devient donc la marchandise la plus importante et la plus vendue. Et les journalistes, en tant que le canal par lequel cette information est véhiculée, deviennent donc des personnes sensibles pendant ce temps-là. Et en même temps, il faut savoir que les élections attestent la possibilité pour un pays de construire ou de formaliser un nouveau contexte politique ou un nouvel ordre social et politique. Les journalistes sont donc des agents qui permettent la cristallisation d'une nouvelle conscience civique. Et ainsi, dans cette optique, il devient important que les journalistes soient sécurisés parce que une information sincère peut finalement orienter le comportement d'une partie de la population en faveur ou en défaveur de tel candidat, en faveur ou en défaveur de son programme d'action, et ainsi déterminer le succès ou l'échec électoral. Par rapport déjà à cette question de la journée sans information, j'estime que la presse quand même est un service public, il ne faut pas empêcher la population à jouir de son droit d'être informée. C'est un droit qui est garanti par la Constitution, il n'appartient pas à mon sens aux journalistes de pouvoir violer ça. Si je comprends que du point de vue essentiellement réactif, il est important que le journaliste puisse faire comprendre au pouvoir public la nécessité de prendre en compte la sécurisation des journalistes. La marche suffit déjà, mais si ça se révèle inefficace, il va falloir peut-être une sorte d'embargo par rapport à ce qui concerne typiquement la campagne électorale. Mais n'est pas diffuser des informations, j'estime que c'est priver aux citoyens de leur droit d'être informés et ça c'est quand même contraire à la logique qui sous-tend tout service public.
Oui, votre réaction brièvement, M. Kadéan Pindipassi.
Oui, moi je comprends bien disons, ce que dit l'ami, mais seulement je le dis que c'est bien d'avoir du pain, mais il faut qu'il y ait un boulanger. Voyez-vous, pour le reste, comme on l'a déjà dit, le plus important c'est la dimension psychologique effectivement de cette action que nous avons menée. Il dit oui, l'embargo suffit, mais c'est vrai, la marche suffit. Nous avions déjà fait une marche la fois dernière et donc nous avons dit que cette fois-ci on doit aller un peu plus loin parce que ça commence à bien faire.
Oui, Monsieur Mouba Sakani, on sait que votre ministère a entre autres pour mission de garantir l'accès à l'information à tous. Et en tant que ministre de l'information, pensez-vous répondre à cette obligation quand des journalistes que votre organe est censé protéger se révoltent et font pratiquement un embargo sur les informations?
Mais tout à fait. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, cette journée sans information a été un grand coup médiatique, c'est une grande journée d'information. Le problème, c'est que l'information était unique, la mort de Bapua Mwamba. Tout le monde a su, en voulant suivre l'information, aux heures indiquées pour les radios et les télévisions, et qu'est-ce que toutes les radios disaient? à cause de l'assassinat de notre confrère, nous ne pouvons pas diffuser d'informations. L'information est passée et elle est passée d'une façon extraordinaire. Elle est passée pratiquement en boucle sur toutes les radios, sur toutes les télévisions. Donc au moins les journalistes, contrairement à ce que peut-être beaucoup pensent, qu'ils ont privé la population, le peuple congolais de l'information, au contraire, on lui a donné une seule information, qu'on a un ras-le-bol de voir les journalistes périr comme ça, et que s'il arrive qu'il en meure encore, les journalistes ne donneront que cette information, ce qu'ils ont fait.
Oui,
mais... Au moins, je ne suis pas d'accord avec les amis journalistes sur la destination de la marche. Je crois qu'il nous est une obligation de lire l'accord qu'il y a entre le gouvernement congolais et la MONUC. Il n'entre pas dans les prérogatives de la MONUC de régler des questions de police interne. Si nous sommes insuffisants dans la garantie à apporter à la protection des populations congolaises, nous en répondons en tant que pouvoir public. Et c'est vers nous que devait être destinée cette requête de la corporation. Je crois qu'on mêle la MONUC de ce qu'il ne la regarde pas, même si elle est venue en appoint à la consolidation de la paix et de la sécurité dans le pays.
Oui, Monsieur Mouva Sakani, vous nous éloignez un peu de notre émission en revenant sur la forme et sur comment a été introduite la demande pour la marche. Alors, nous, au fait, ce qu'on voulait savoir, qu'est-ce que propose effectivement le gouvernement pour éviter de nouveaux cas, au fait, d'assassinat des journalistes? Bref, comment garantir la sécurité des journalistes en cette période électorale?
Les journalistes ne constituent pas une corporation à part par rapport à la société globale, malheureusement. Ils ne sont pas localisés à un seul endroit, dans un internat, qui nécessiterait alors des mesures drastiques de sécurité, malheureusement. Ils sont disséminés à travers le pays, prennent part à plusieurs activités, et il est quand même douloureux de constater qu'en 8 mois, ils ont été frappés de cette manière-là. La sécurité améliorée est celle de tous les Congolais, dont les journalistes. Mais il y a une particularité par rapport à la dangerosité du métier qu'ils exercent, ce qui justifie d'ailleurs l'existence des GIEC. Hein. Donc les journalistes, il faut l'avouer, c'est quand même une catégorie vulnérable du fait de la particularité des informations à traiter. Mais je reste convaincu que si nous améliorons la sécurité de tous les Congolais, les journalistes ne pourraient que s'en trouver mieux. Encore que nous n'avons pas répondu à la question, quel est le motif du crime? Pourquoi on tue les journalistes? Pourquoi on a tué un deuxième journaliste en l'espace de 8 mois? Est-ce que c'est un crime d'obédience politique? Je ne sais pas le dire, surtout qu'il y a un procès en cours. Et donc, au lieu de nous hasarder à des hypothèses qui iraient dans le sens de consolider le fait qu'il y aurait un complot national contre le journaliste, je reste modéré à dire laissons la justice faire son travail et la vérité dira son mot.
Oui, monsieur le ministre, vous n'avez pas jusque-là répondu à notre question. Concrètement, qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait pour sécuriser les journalistes? Qu'est-ce qu'il compte faire pour sécuriser ces professionnels des médias en cette période préélectorale, concrètement, monsieur le ministre?
Mais madame, j'ai l'impression que vous avez déjà une réponse et vous voulez que je la découvre. Je vous donne la réponse suivante. Les journalistes n'étant pas un corps isolé de l'ensemble de la société, leur sécurité est celle de toute la nation. Si nous améliorons la sécurité de la nation, n'allez pas non plus faire croire que c'est la catastrophe au Congo. Il nous est arrivé une sorte de celle que j'ai appelée la malédiction, qu'en 8 mois on ait tué des journalistes. Pourquoi les a-t-on tués? Entre-temps, il y a d'autres Congolais qui sont morts, n'est-ce pas? Et on peut même compter plus de morts dans d'autres corporations que chez les journalistes. Mais ce qui nous intrigue, c'est le fait que l'on vienne pas pour voler chez un journaliste pour qu'on justifie les crimes crapuleux, qu'on les tue et qu'on parte. L'organisation de la société fait que ce soit la justice qui soit chargée de nous dire la vérité, elle ne l'a pas encore dite et nous attendons. On ne peut pas se hasarder à dire des insinuations qui risqueraient encore de mettre de l'huile sur le feu. Et donc la sécurité des Congolais, c'est notre particularité. Hier, c'était beaucoup plus dangereux de vivre dans ce pays. Aujourd'hui, ça s'améliore et ça va continuer à s'améliorer. La police est en train de monter en puissance et c'est la police qui est chargée de garantir la sécurité bien de personnes en Congolais.
Oui, monsieur le ministre, on va voir cela avec Tivis Tivoidi, qui est secrétaire général des journalistes en danger, une organisation de défense des droits des journalistes. Alors, monsieur Tivis Tivoidi, à votre niveau, comment pensez-vous qu'on puisse arriver à garantir la sécurité des journalistes en cette période électorale, brièvement?
C'est vrai qu'on ne peut pas mettre un policier ou un militaire derrière chaque journaliste, c'est pas possible. Mais je pense qu'il y a des mesures d'urgence qu'on peut prendre. Je vais vous donner un exemple. En Algérie, il y a quelques années, on tuait des journalistes et chaque jour, on en tue au moins une dizaine. Le gouvernement a dû prendre des journalistes et de force, il les a forcés à les mettre quelque part dans une sorte d'internat comme est tenté de dire.
C'est ce que vous voulez aussi?
Non, je ne dis pas ça. Mais je pense qu'il faut qu'on se concerte pour ensemble. Nous sommes venus hier ici à la Monique pour déposer un mémo. On a eu des échanges très, très fructueux avec notamment la Commission des droits de l'homme qui sont prêts, qui ont des propositions bien concrètes à faire aux journalistes. Je crois qu'il faut qu'on se retrouve ensemble, la profession, le pouvoir public, pour voir ensemble quelles mesures on peut prendre. Et je pense qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour essayer, dans cette période particulièrement, des mesures d'urgence pour éviter qu'on puisse encore...
Oui, monsieur Tivis, tu vois, dit, est-ce qu'en faisant cela, quelque part, vous ne montrez pas que le gouvernement a démissionné vraiment de sa mission? Parce que normalement, vous devriez remettre ces mémos au gouvernement pour que le gouvernement puisse garantir la sécurité des journalistes.
Ben écoutez, vous savez que lorsqu'on a fait la première marche, le mémo, on l'avait déposé auprès d'un vice-président de la République. Mais cette fois-ci, nous sommes venus crier notre ras-le-bol devant la communauté internationale et nous disons cette communauté internationale a aussi une responsabilité. Aujourd'hui, c'est cette communauté qui encadre les élections, qui sécurise les élections. Et nous posons la question, comment on peut sécuriser les élections sans penser à sécuriser les électeurs dont les journalistes font partie? C'était ça le sens de notre démarche.
Alors, monsieur Kabéan Pindipa, si vous qui êtes président de l'Union de la presse congolaise, un auditeur des Goma, il s'appelle Mumbere Kindele, demande s'il faut maintenant une garde rapprochée pour le journaliste. Est-ce que c'est ça qu'il faut pour le journaliste, pour le sécuriser?
Non, je crois que comme tu viens de le dire, la réponse ne peut pas être mécanique. Pour l'instant, il faut une réflexion beaucoup plus approfondie pour savoir d'abord quelles sont les causes de cette espèce justement de catastrophe. Et à ce moment-là, commencer effectivement à trouver les meilleures réponses pour la sécurisation. Mais je crois que le gouvernement a la responsabilité de la sécurité des citoyens, n'est-ce pas?
Mais
comme dit le ministre justement, le ministre dit oui, quand la sécurité de tout le monde va s'améliorer, celle des journalistes va s'améliorer, il a tout à fait raison. Mais malgré cela, les candidats qui sont engagés dans la course électorale sont protégés de façon particulière. On n'a pas attendu que la sécurité générale puisse s'améliorer. Nous, journalistes, c'est nous qui sommes quand même parmi les principaux acteurs de ces élections, voyez-vous. Tant que nous sommes impliqués, nous sommes, et c'est pour ça que nous sommes menés aux Nations Unies, nous sommes une composante oubliée dans la sécurisation et il faudrait que des mesures d'urgence puissent être trouvées, je ne sais pas lesquelles là, en ce moment, ici, pour qu'on puisse effectivement, essayer de renforcer cette sécurité. C'est tout à fait simple. Et puis, nous savons que le Conseil de sécurité des Nations Unies fait parfois des pressions sur le gouvernement congolais qui, parfois, si on lui fait pas ce genre de pression, ne marche pas. C'est pour ça que nous demandons aux Nations Unies de faire ces pressions pour que le gouvernement puisse regarder là où il a eu à fermer les yeux jusqu'ici.
Alors, comme nous approchons vraiment de la fin de cette émission, voyons maintenant que pensent les auditeurs de tout ceci. Donc, que pensent les auditeurs de la sécurisation même des journalistes? Nadine Foula, bonsoir.
Bonsoir Breu et bonsoir à tous nos auditeurs. Nous commençons avec Justin Kabuya Chamalenge qui nous écrit à Kananga. Il dit que les auteurs d'assassinats et leurs commanditaires soient condamnés à de lourdes peines. Maurice Kisimba au Katanga propose une solution. Il dit, avec de tels meurtres, à mon avis, je demande à tous les journalistes d'abandonner ce métier car ce dernier met leur vie en danger. Joe Kamba de Kananga tranche en disant, même Mobutu dans ses derniers jours aux abois n'a pas traqué les journalistes de façon aussi systématique et méthodique que le politicien actuel. Joseph Kayembe à Kananga toujours invite le journaliste à la prudence à cause de leur vérité, ils sont tués et ils doivent savoir qu'ils n'ont aucun secours. Désiré Kayoka Albumbashi dit « Je déteste la position des journalistes louchois. Je ne suis pas avec eux quand ils disent qu'ils ne veulent pas pleurer leurs collègues et disent que nous vivons du jour au jour. C'est un comportement très léger. » Didier Abouka vous compatit avec l'UNPC pour cet assassinat, mais toutefois, il dit qu'on ne sent pas l'impact de cette journée sans information sur les acteurs politiques. Apparemment, l'action est plus dirigée contre la population qui est innocente. Alors, il se demande s'il n'y a pas d'autres moyens pour réagir contre de tels actes. Yvon Mbouemboué, journaliste indépendant à Goma, estime que le respect d'un peuple passe par le respect de ses droits et le plus fondamental, c'est son droit à l'information et à une opinion. Makangila Kadhafi d'Uvira constate que certains partis politiques contribuent à l'insécurité des journalistes. Pierre Angolo Marsouin à Uvira toujours condamne fermement la mort des journalistes et demande au gouvernement d'assurer la sécurité équitable à tous les Congolais. Pour Trésor Zengue à Mbandaka, le gouvernement doit assurer la sécurité des journalistes, mais les journalistes aussi, en faisant leur travail, doivent faire montre de neutralité, sinon ils seront toujours des victimes. Monsieur Ndex à Kananga trouve qu'aussi longtemps le gouvernement ne va pas nous aider à assister à un procès juste et équitable de ces tueries, ainsi que leurs commanditaires, le gouvernement doit savoir qu'il est tenu pour responsable de tous ces meurtres.
Nous avons reçu plusieurs opinions de nos auditeurs. Malheureusement, on ne peut pas toutes les passer. Alors, nous demandons à nos invités brièvement, en une minute, nous commençons par vous, Tivis Tivoidi. En une minute, réagissez à ces opinions des auditeurs.
Eh bien, écoutez, je voulais simplement dire quelque chose aux journalistes. Ça veut dire, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que offrir la sécurité à 100% aux journalistes, ce n'est même pas dans notre rôle. Mais nous disons aux journalistes qu'ils doivent avoir à l'esprit qui sont en train d'exercer non seulement un métier dangereux, mais qui travaillent dans un milieu qui est plus ou moins hostile par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Et la meilleure, une des sécurités qu'ils peuvent eux-mêmes s'offrir, c'est de faire leur travail en professionnel en acceptant les normes. Quand le journaliste sort du terrain professionnel pour se mettre sur le terrain politique, il s'expose à toutes sortes de représailles. Et c'est vraiment un message que nous donnons aux journalistes, surtout en cette période, pour pouvoir se mettre en sécurité, au moins pour 50% par rapport au risque. Le journaliste doit respecter scrupuleusement les normes, le code d'éthique et de
l'autorité. Monsieur Tivis, tu vois dit, vous avez épuisé votre minute. Monsieur Kabéan Pindi Passi, président de l'Union de la presse congolaise, également une minute pour réagir à ces opinions des auditeurs.
Oui, il y a un auditeur qui m'a fait sourire, qui demande aux journalistes de laisser tomber carrément les bras et d'aller voir un peu si c'est pas mieux ailleurs, quoi. Non, je crois que les journalistes, on les appelle chevaliers. C'est justement à cause de la nature de leur métier. Ce sont des gens qui sont au service de la vertu, c'est-à-dire la quête de la vérité. Et ça ne peut pas être un travail facile. C'est comme tout le chevalier qui va à la guerre. C'est effectivement au risque de sa vie parfois qu'on fait ce travail. Mais seulement, on regrette qu'effectivement ce risque, maintenant le péril qui frappe à nos portes est un péril plus ou moins gratuit. C'est ça que je voudrais déplorer, n'est-ce pas, par rapport à cette situation, quoi.
Oui, monsieur le ministre de l'Information, donc je rappelle, c'est monsieur Henri Mova Sakani, également une minute pour réagir à ces opinions des auditeurs.
Ben, j'abonde dans le même sens des considérations liées à la déontologie des journalistes qu'émet M. Tivoidi, mais seulement à travers les questions des auditeurs et même dans les sous-entendus de M. Kabéan et M. Tivoidi, il y a comme un consensus allant dans le sens que c'est nécessairement la politique qui serait commanditaire de tous ces crimes qu'il y a eu aux journalistes. Moi, je crois que c'est un peu aller trop vite en besogne. Il est malheureux de constater que deux journalistes ont été tués en l'espace de 8 mois. La justice est en train de faire éclore la vérité, nous saurons. Est-ce des politiques qui ont commandité cette mort, nous le saurons. Mais seulement, je ne veux pas que par des a priori, l'on pense déjà que lorsqu'on trouve un journaliste mort, c'est qu'un politicien a été mécontent par rapport au travail du journaliste. Encore plus, beaucoup de journalistes travaillent avec les politiciens, soit comme patron, soit beaucoup de politiciens aujourd'hui viennent de la corporation. Et donc, il y a des interpénétrations entre la corporation des journalistes et la classe politique.
Oui,
parfois, monsieur, qui arrivent à des drames comme ceux que nous avons connus. Mais là-dessus, des grâces, qu'on ne s'avance pas trop vite à faire de dogmes du genre, effectivement, nous sommes tous coupable d'avoir commandité la mort de journalistes.
Merci, monsieur Henri Mova Sakani. Donc, la minute que nous vous avons accordée, monsieur le ministre, vient de s'épuiser. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Il y avait également une réaction de monsieur Sabéan Pindi Passi qui dit que toutes les hypothèses sont permises en ce qui concerne les attaques et les assassinats contre le journaliste. Alors nous disons encore merci à tous les invités qui ont répondu à cet appel et qui ont participé à cette émission. Elle sera rediffusée demain matin à 4h45 heure de Kinshasa. Et au nom de toute l'équipe de dialogue entre Congolais, merci et à la prochaine.